Le grand témoin. Le grand témoin. Louis Dauphren.
C'est donc aujourd'hui que le 46e président des États-Unis, Joe Biden, va prêter serment. Aujourd'hui, mercredi 20 janvier, sur les marches du Capitole. De son côté, le président américain actuel, encore pour quelques heures, Donald Trump, s'envole pour la Floride, quelques heures donc avant cette prestation de serment. S'il a finalement souhaité bonne chance à son successeur dans un message vidéo, le tempétueux milliardaire ne l'a jamais félicité. Effet sans précédent depuis 150 ans, il ne participera pas, le président sortant ne participera pas à la cérémonie d'investiture à Washington. On va essayer de comprendre cet événement sous un angle peut-être un petit peu plus vaste aujourd'hui, sous le regard de, non pas l'Amérique, mais l'américanisation, qui est un concept plus complexe, qui nous concerne peut-être davantage d'ailleurs, parce que si on vit cet événement à l'heure américaine, après tout, on peut déjà se poser la question, pourquoi nous sentons-nous si concernés par ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que l'Atlantique se rétrécit? Alors Ludovic Tournès est un expert du sujet, ce n'est pas seulement un connaisseur du jazz, du cinéma américain, mais il a publié un ouvrage de référence sur la question qui s'appelle « Américanisation, une histoire mondiale, 18e, 21e siècle », qui embrasse tous les aspects de ce concept qu'on va étudier de manière un petit peu plus précise. Les Américains veulent-ils prendre possession du monde à l'heure où, semble-t-il, le concurrent chinois commence à grimper et à leur prendre peut-être la première place? C'est l'une des questions que l'on posera à Ludovic Tournès. Bonjour Ludovic Tournès.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire internationale à l'Université de Genève, mais vous avez aussi beaucoup d'autres talents apparemment. Vous êtes musicologue, expert donc de jazz, expert de cinéma. Ça compte beaucoup dans votre capacité à étudier l'Amérique?
C'est évident que quand on travaille sur l'américanisation, c'est un phénomène multidimensionnel qui concerne à la fois la dimension économique, politique, culturelle, et puis les différents aspects de la culture. Donc oui, c'est intéressant de voir les choses sous différents angles et en étudiant ces différentes manifestations.
L'Amérique clive beaucoup en France. Il y a les opposants à l'Amérique, très nets. D'ailleurs, ils sont aussi bien très à gauche ou très à droite. Et puis, il y a aussi une idolâtrie, un rêve de l'Amérique.
Alors oui, c'est vrai que il n'y a pas qu'en France d'ailleurs qu'elle est assez clivante. On aime bien penser que la France est un des pays où l'Amérique est le plus clivante, mais ce clivage existe dans beaucoup de pays. C'est vrai que il y a à la fois une fascination pour la prétendue modernité, en tout cas la façon dont l'Amérique a préempté la modernité au cours du XXe siècle, et puis une crainte par rapport aux effets pervers de cette modernité. Donc ça explique souvent la polarisation assez extrême des positions. Et comme en plus l'Amérique est devenue la première puissance du monde au cours du XXe siècle, il est toujours difficile de prendre une position mesurée par rapport à ça, parce qu'il y a évidemment toujours la façon dont on doit se positionner par rapport à cette puissance qui a une ambition mondiale, qui agace beaucoup les Français.
Oui, parce que souvent le concept d'universalité s'est partagé entre l'Amérique et la France, il y a une rivalité autour de cette conception-là.
Absolument, on a deux nations qui ont développé des universalismes assez différents, mais des universalismes quand même, et dont l'une est un universalisme en déclin, en particulier à partir de la Première Guerre mondiale, et l'autre, les États-Unis, qui est un universalisme en expansion à partir de la même période, et donc je dirais les deux courbes se croisent, et c'est vrai que ça engendre des tensions assez fortes.
Ludovic Tournès, pour être en écho avec la journée d'aujourd'hui, comment vous, est-ce que vous la regardez? Quelle est la nature de cet événement? Comment l'expert des États-Unis regarde un tel événement, une investiture?
Alors, cette investiture, elle est extrêmement intéressante parce que je dirais que, d'abord, du point de vue sur le court terme, je dirais qu'on assiste à la clôture d'une séquence qui a commencé avec l'élection du 3 novembre et qui a été complètement rocambolesque à tous égards, et qui s'est terminée par un quasi-coup d'État le 6 janvier au Capitole. Donc ça, c'est effectivement extrêmement intéressant. Et puis, je dirais, sur le plus long terme, on a assisté en fait à une séquence qui a vu, je dirais, à la fois le meilleur et le pire du système politique américain. Le pire au sens où on a un système qui est incroyablement compliqué d'organiser ses élections à l'échelle fédérale, et puis un système qui aboutit à des non-sens où parfois on a un président qui est minoritaire en voix et qui finit par l'emporter. Donc ça, c'est évidemment très très problématique. C'est arrivé à plusieurs reprises ces dernières années. Et puis le meilleur, c'est-à-dire l'existence de contre-pouvoirs qui ont, au moment où Donald Trump a dit des choses objectivement fausses, c'est-à-dire sur sa prétendue victoire à l'élection, il a été censuré par les médias qui ont fini par jouer leur rôle de quatrième pouvoir. Et puis l'organisation extrêmement méticuleuse à tous les niveaux des États et des comtés qui a abouti à finalement l'élection qui est probablement la plus sûre de l'histoire des États-Unis. Donc on a vraiment ce double aspect et on voit en fait à travers ces deux aspects, je dirais, toutes les contradictions du système politique américain qui finalement, à partir du XVIIIe siècle, s'est pensé, s'est conçu et s'est présenté au monde comme étant le système politique parfait, la meilleure synthèse de toutes les philosophies politiques et de toutes les pratiques politiques du monde, et qui du coup, à ce titre, s'est présenté comme un modèle. Et en même temps, un modèle qui a présenté tout au long de son histoire toute une série de dysfonctionnements. Et en tout cas, ces dysfonctionnements sont tels aujourd'hui qu'il ne peut plus prétendre être un modèle pour le reste du monde.
Quel est le point que vous estimez qui devrait être modifié dans ce système américain ?
Alors ça, c'est la question à 1000 euros.
1000 dollars.
Le système politique, ou 1000 dollars, oui, effectivement. Non, le système politique américain est incroyablement compliqué. Moi, j'aime bien dire qu'il en va du système américain comme il en va de l'ONU. Je dirais qu'il est quasiment irréformable, ou alors il faut tout remettre sur la table, oui. Parce qu'effectivement, on a un système qui est d'élections à tous les niveaux, qui était viable, je dirais, au XVIIIe siècle, avec les 13 colonies devenues les premiers États-Unis, mais qui, au fur et à mesure de la croissance du pays, et de la croissance de la population est devenue, je ne dis pas ingérable, la preuve c'est qu'il a été géré finalement bien, mais source d'énormément de dysfonctionnements et puis d'énormément de conflits intérieurs qui en sont la conséquence, c'est ça le problème.
Alors Ludovic Tournès, sur l'américanisation, dites-nous un petit peu de quoi il ressort, c'est-à-dire qu'il y a un double mouvement que vous étudiez, l'américanisation c'est la manière dont l'Amérique fabrique des Américains, et là il y a quand même des questions qui se posent aujourd'hui, c'est que est-ce que le concept d'Américain est encore supérieur aux divisions de l'Amérique, entre l'Amérique profonde et l'Amérique côtière. Donc ça sera une première question. Et puis la seconde question qui se pose avec l'américanisation, c'est la manière dont l'Amérique américanise ou produit un désir, un rêve auprès d'autres nations qui, non pas forcément abandonnent, mais introduisent dans leur culture une dominante américaine ou un critère américain important. Alors est-ce qu'on peut étudier déjà le premier point ?
Alors, américanisation, je crois que ce qui est très important, et ça on l'oublie trop souvent, ça veut dire effectivement deux choses. Ça veut dire assimilation des immigrants qui arrivent aux États-Unis, d'une part, et ça veut dire transformation du monde en États-Unis, d'autre part. Et
c'est
les
ça.
Deux mouvements sont en fait complètement parallèles, et c'est vrai que souvent on a tendance à mettre complètement de côté le premier en considérant que c'est simplement une affaire américaine, ou simplement en ignorant le phénomène, et puis à ne prendre que le deuxième en imaginant qu'il y a une diffusion unilatérale de la culture américaine dans le monde entier, ce qui est un petit peu schématique. Donc il y a ces deux mouvements, et en fait ils fonctionnent selon absolument la même logique, c'est-à-dire que la façon dont l'Amérique américanise ses immigrants, les gens qui viennent sur son sol, c'est aussi la même façon dont elle propage ses formes culturelles et ses pratiques à l'extérieur du pays. Alors pour répondre à votre première question, entre les Américains de la côte et les Américains de l'intérieur, alors là c'est vrai que l'Amérique n'a jamais été aussi divisée qu'elle l'est aujourd'hui. En même temps, c'est un petit peu rhétorique de dire ça parce qu'elle a toujours été très divisée et précisément ce qu'elle a réussi à faire tout au long du 19e et du 20e siècle, c'est à intégrer des populations extrêmement diverses autour d'une thématique bien précise qui est celle du rêve américain, hein, l'intégration à une communauté politique et l'intégration aussi à une communauté économique à travers la société de consommation. Donc ça, c'est un fil conducteur. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, c'est que l'intégration est toujours un défi, je dirais, permanent pour ce pays. Il est autant aujourd'hui qu'il l'était, en fait, au 19e siècle.
Quels sont les aspects, quels sont les critères requis pour devenir américain quelle est la politique, en fait, de l'américanisation ?
Alors, elle est passée par plusieurs stades, et le moment où le terme américanisation a été vraiment lancé dans le débat public états-unien, c'est au début du XXe siècle, quand en fait les vagues d'immigrants venus d'endroits extrêmement divers ont posé un problème aux élites américaines, à savoir comment intégrer des gens aussi divers. Et donc, l'idée qui avait été développée à l'époque était le 100% américanisme, c'est-à-dire faire en sorte que les les gens oublient complètement leurs origines et se font dans un creuset américain autour des valeurs de la démocratie américaine, d'où cet aspect extrêmement important, hein, au-delà du fait que c'est un système d'organisation des pouvoirs, c'est aussi la façon de s'intégrer aux États-Unis par la croyance en la perfection de ce régime démocratique, et puis l'intégration économique à travers, évidemment, le rêve de l'ascension sociale, et puis le rêve de l'intégration à travers la consommation, hein, qui fait des gens des Américains. Et puis, troisième facteur, je dirais la communion autour d'une histoire qui est racontée de façon romancée et même fantasmée, en particulier à travers un de ses vecteurs majeurs, qui est le cinéma hollywoodien, et peut-être encore plus en particulier le western, qui a été, je dirais, entre les années 20 et les années 50, le genre cinématographique le plus populaire aux États-Unis et dans le monde, et qui met en scène une version reconstruite de l'histoire américaine autour de la conquête de l'Ouest.
Ce récit fonctionne toujours, Ludovic Tournès ?
Alors, ce récit, non, il a commencé à se gripper sérieusement, je dirais, dans les années 60, parce qu'il faut bien voir que là, si on reprend le western comme fil conducteur, il y a vraiment, c'est un récit qui transforme la conquête de l'Ouest, qui est une conquête territoriale, presque une conquête coloniale, d'un territoire qui n'était pas vide, comme on voulait bien le dire, mais qui était peuplé d'un certain nombre de tribus indiennes qui ont été exterminées les unes après les autres, et qui transforme en fait ce récit en une épopée héroïque, la conquête d'un pays vide par des immigrants courageux et qui exploitent leur terre. Et en fait, le western classique, c'est la glorification de l'Amérique blanche. Or, ce récit, il a commencé sérieusement à se gripper. Alors déjà, il était grippé au 19e et au début du 20e siècle, à cause en particulier de la ségrégation. Mais à partir de la fin des années 50, il tenait de moins en moins et il a été de plus en plus contesté. Donc, on peut dire qu'à partir de la fin des années 60, du milieu des années 60, disons, il a fallu essayer de trouver d'autres choses pour que ce récit fonctionne. Mais à l'heure actuelle, cette idée sur laquelle a été fondée les États-Unis, sur la conquête d'un pays vierge, elle ne marche plus.
Ludovic Tournès, Joe Biden va donner la nationalité américaine ou des permis de séjour à des millions d'illégaux. Est-ce que dans l'esprit des démocrates, le monde entier est appelé à devenir américain, ou est-ce que il peut devenir américain? Est-ce que ce n'est pas... On a perçu le mouvement Trump comme étant le sursaut de l'Amérique blanche ou des petits blancs. Est-ce que ça, c'est fini? Et est-ce que la vocation de l'Amérique à présent, c'est d'être encore plus multiculturel, quitte à peut-être rendre son identité plus fragile?
Alors, je crois que les deux points que vous avez évoqués sont précisément l'attention majeure de l'histoire américaine. Je dirais, vous avez raison sur les deux points, c'est-à-dire que il y a d'un côté une partie de l'Amérique qui a vocation à embrasser le monde entier. Et bon, pour moi, l'américanisation, si vous voulez, c'est la création d'un sentiment d'appartenance à un pays qui s'est conçu, mais dès le XVIIIe siècle, à l'échelle de l'ensemble de la planète. Donc ça, c'est extrêmement important. Et il y a tout un courant, effectivement, qui porte vers ça. Et puis de l'autre côté, il y a un autre courant qui est beaucoup plus provincialiste ou localiste, on l'appelle aussi isolationniste, mais le terme n'est pas forcément très bien choisi. Et à ce titre-là, Trump n'est pas un sursaut, hein, ça représente une dimension structurelle. Hein. Je rappelle qu'il y a quand même 74 millions d'électeurs qui ont voté pour lui, donc c'est pas rien. Et donc, cette tension entre une dimension extrêmement localiste et une dimension universaliste, elle est permanente dans l'histoire américaine. Simplement, il y a des moments où le curseur va plus dans un sens ou plus dans l'autre.
Donc ça veut dire qu'avec Joe Biden, ça va être plus universaliste, logiquement, si on vous suit.
Alors, en théorie, oui. En pratique, c'est pas forcément si évident que ça, parce que on se dit qu'après, effectivement, la période Trump, il va y avoir un retour à la normale, si je puis dire. Enfin, c'est ce que beaucoup de gens espèrent dans le reste du monde. Je suis pas sûr que ça soit aussi simple que ça, parce que finalement, les États-Unis, on l'oublie trop souvent, se sont beaucoup éloignés du monde dès les années 90. On a tendance à penser que c'est Trump qui a commencé ce processus, mais en réalité, il a commencé dès la présidence présidence Clinton. Joe Biden va certainement, retrouver un certain nombre de pratiques qui apparaissent normales aux yeux du reste du monde, mais il n'est pas du tout évident qu'il va revenir, je dirais, à l'Amérique classique des années 50 et 60 avec cette vocation universaliste. Ça, ce n'est pas du tout évident.
Ludovic Tournès, comment analysez-vous le phénomène religieux? Quelle est sa part structurante aujourd'hui, à l'heure où nous parlons dans cette Amérique divisée? Sachant qu'on a pu voir, on a d'ailleurs fait plusieurs sujets là-dessus sur notre antenne, qu'une grande partie de l'évangélisme était derrière Donald Trump, en particulier le mouvement pro-vie, et que Donald Trump leur a donné satisfaction à bien des égards, en particulier en nommant un juge à la Cour suprême qui était favorable à ces positions-là. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les chrétiens sont d'un camp et pas d'un autre, ou au contraire, est-ce qu'ils se répartissent de manière assez homogène dans un camp comme dans un autre ?
Alors, la religion est un phénomène absolument structurant aux États-Unis, dans l'histoire américaine. Ça, on ne comprend pas l'histoire américaine si on ne prend pas en compte ce critère-là qui est absolument fondamental. Et je rappelle que, là, on va le voir aujourd'hui, hein, Joe Biden, le président, prête serment sur la Bible. Hein, donc, c'est absolument fondamental. Donc, la religion, je dirais, est partout. Mais les chrétiens et les différentes tendances ne se répartissent pas de façon homogène sur l'ensemble de la population américaine, et c'est vrai que la frange la plus conservatrice, en particulier les évangéliques, se regroupent très majoritairement du côté Trump. Et c'est vrai que les évangéliques représentent en gros peut-être 25 à 30% de la population américaine, 25% disons, donc c'est une proportion tout à fait considérable, et cet électorat-là vote Trump, je dirais, pratiquement de façon ultra majoritaire.
À plus de 90% quasiment. Hein.
Oui, oui, tout à fait.
Donc ça veut dire que de ce côté-là, est-ce qu'il y a un clivage qui va s'accentuer? C'est-à-dire, est-ce que le christianisme devient un objet clivant, en fait, aux États-Unis ou pas?
Alors, en tout cas, une certaine conception du christianisme et de la religion. Là, c'est clair qu'effectivement, les milieux évangéliques sont extrêmement conservateurs, sont anti-avortement, pour une bonne partie anti-immigration. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui vont ensemble. Et c'est clair que ce n'est pas du tout la même vision que celle que peut développer l'électorat qui vote démocrate. Donc là, on a le clivage, je veux dire, entre ces deux Amériques divisées dont on parlait tout à l'heure, il passe aussi au niveau religieux.
Ludovic Tournès, comment voyez-vous l'américanisation chez nous? Quelles sont les étapes? Alors, sans faire une histoire trop importante, quelles sont peut-être pour aujourd'hui ou pour demain, quels sont les aspects de l'Amérique qui vont s'imposer davantage chez nous, et quels sont ceux que l'on désire davantage de notre côté?
Alors déjà, moi, je voudrais signaler une chose qui, à mon avis, est très importante, c'est que on a souvent tendance à dire qu'on est complètement américanisé, submergé par les produits et les pratiques culturelles venues des États-Unis. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais pour moi, quand je regarde les choses sur le long terme, je veux dire en tant qu'historien, depuis le 19e siècle et tout au long du 20e siècle, évidemment, l'Amérique s'est propagée dans le reste du monde de façon extrêmement importante. Elle est devenue un pays culturellement dominant, mais pas hégémonique. Ça, je crois que c'est très important. Et d'autre part, toutes les choses qui sont venues des États-Unis, pour faire très court, ont été très largement transformées, adaptées, repensées, retransformées, et souvent reparties aux États-Unis. Donc c'est un phénomène extrêmement complexe. Ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est vrai que depuis une trentaine d'années, avec en particulier la révolution numérique, on pourrait se dire que, enfin, on peut se dire que c'est une nouvelle étape, je dirais, dans une américanisation encore plus forte, parce que, évidemment, les entreprises américaines ont une place absolument centrale dans ce processus. Et quand on regarde à quel point les réseaux sociaux ont complètement transformé nos pratiques quotidiennes, on peut effectivement conclure à une américanisation quasi complète. Donc ça, du point de vue de la culture matérielle, si je puis dire, c'est quelque chose qui est très important. En même temps, moi, ce que je vois comme différence entre la situation d'aujourd'hui, hein, et puis celle, disons, des années 1945-1950, le moment où les États-Unis étaient au summum de leur prestige, c'est que les États-Unis ne sont plus un modèle, précisément. Et ils n'incarnent plus la modernité comme ils pouvaient l'incarner au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a fondamentalement changé. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, les États-Unis n'ont peut-être jamais été autant détestés dans le reste du monde qu'ils le sont. Donc il y a un paradoxe, si vous voulez, entre une américanisation d'un certain nombre de pratiques liées en particulier à la révolution numérique, et puis d'un autre côté, des États-Unis qui ne sont plus un modèle, qui ne font plus rêver autant et qui n'incarnent plus la modernité. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui va continuer dans les années à venir, d'autant plus que les États-Unis d'aujourd'hui n'ont plus cette vocation à être un modèle, précisément, comme c'était le cas dans les années de guerre froide.
Donc ça, mais je pourtant, crois que c'est vraiment Ludovic Tournès, on a le sentiment, je ne sais pas si c'est un ressenti que vous partagez, mais que le socle de la culture européenne et même la manière européenne ou française de voir le monde recule au profit de la culture télévisuelle américaine, qui est quand même extrêmement forte, en particulier chez les jeunes.
Oui, on peut dire ça, c'est vrai. En même temps, moi, en tant qu'historien, ce que je vois, c'est que ce discours-là, il est présent depuis le milieu du 19e siècle. Alors évidemment, au milieu du 19e siècle, la télévision n'existait pas. Oui. Mais en France en particulier, ça fait déjà un siècle et demi qu'on a des discours sur la submersion de la culture française par les États-Unis. Alors si c'était vraiment le cas, on serait déjà complètement américanisé depuis très longtemps. Or, ça n'est pas du tout le cas. Donc évidemment, je veux dire, la force de frappe des industries culturelles américaines, elle est effectivement extrêmement importante. Mais ça ne doit pas amener à conclure qu'elle a complètement tout submergé sur son passage. Maintenant, ça pose effectivement un vrai problème, mais je dirais que c'est un vrai problème, c'est-à-dire de contre-attaque, si je puis dire, en tout cas d'avoir une offre en face de ça. Et cette offre-là, à mon avis, elle ne peut pas se décliner à l'échelle purement française, ça devrait être à l'échelle européenne, parce que tout simplement, la France ne fait pas le poids vis-à-vis des États-Unis, pas plus que n'importe quel autre pays d'Europe. Hein. Donc ça, je crois que si il faut contrecarrer ou contrebalancer la puissance de feu des industries culturelles américaines, ça devrait être fait à l'échelle européenne, au moins.
On ne rêve pas en chinois, on ne rêve pas en russe, on rêve encore en américain.
Alors, beaucoup de gens rêvent encore américain. Moi, je pense qu'il y en a de moins en moins qui rêvent en américain, oui. Ou en tout cas, ils rêvent dans un américain qui est de plus en plus mélangé, adapté, etc. Parce que ça, je crois que c'est vraiment très important. Quand vous prenez les différents phénomènes culturels qui se sont développés au cours du XXe siècle, encore une fois, tout ça a été profondément transformé, adapté et réexporté. Donc c'est vraiment... vous parliez de jazz tout à l'heure. Quand vous regardez l'évolution du jazz depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui, oui, le jazz américain a constitué un modèle et une référence et est une matrice d'une bonne partie des musiques contemporaines, mais il a tellement été transformé depuis les années 60-70 qu'il n'est aujourd'hui qu'un ingrédient de parmi des tas d'autres dans beaucoup de musiques qui sont des mélanges extrêmement importants.
L'important, peut-être, Ludovic Tournès, c'est de regarder, on va se quitter sur ces considérations-là, d'où vient l'impulsion ? L'impulsion vient encore des États-Unis dans bien des cas ?
Alors, si on s'en tient à la révolution numérique, là, clairement, elle est venue en grande partie de là. Oui, ça, c'est tout à fait clair. Ça pose le problème dont on parlait tout à l'heure. Hein, voilà, pour dire très court, est-ce qu'il faudrait un Google européen, un Facebook européen ?
Oui, voilà, toutes ces questions qui se posent.
Enfin, sans doute, mais voilà, ça, je crois que c'est un point très important. Par contre, l'Amérique n'est plus une référence comme elle a pu l'être il y a 50 ans.
Merci beaucoup, Ludovic Tournès, d'avoir été des nôtres. Je rappelle, américanisation, c'est chez Fayard et c'est vraiment une référence sur ce concept assez peu connu et plutôt galvaudé que vous explorez et que vous expliquez. Merci d'avoir été des nôtres.